Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Art plastique. Arne Laporte.
Autour de moi, ce soir, Anaël Pija, Ingrid Lukegad et Fabrice Bousteau. À notre affiche, le modèle noir de Géricault à Matisse, c'est au musée d'Orsay. Thomas Schütte, trois actes à la Monnaie de Paris. Toutankhamon, le trésor du pharaon à la grande halle de la Villette. Et puis un coup de cœur ce soir d'Anaël Pija, un coup de cœur que je partagerai pour Rome à mort, exposition d'Anne et Patrick Poirier à la Villa Médicis. Nous ouvrons cette dispute avec le modèle noir de Géricault à Matisse. C'est une exposition à voir jusqu'au 14 juillet au musée d'Orsay. Les commissaires en sont Cécile Debray, Stéphane Guégan, Denise Murel et Isole Pludermacher. Comme son titre l'indique un peu, l'exposition s'intéresse à la représentation des figures noires dans les arts visuels depuis le moment de l'abolition de l'esclavage en France, 1794. Jusqu'à aujourd'hui, on va voir de quelle façon, mais avant tout, nouvelle façon de procéder dans cette émission, en quelques mots à peine, comme un slogan, on pourrait dire, votre sentiment sur cette exposition commence avec Anaël Pija.
Une exposition assurément très ambitieuse, une exposition historique aussi, qui a, à mon avis, pour but principal, le fait de nommer ou de rendre des noms à ces figures, des modèles noirs.
Fabrice Bousteau.
Une première en France, les musées français s'intéressent enfin aux cultural genre comme les Américains ou j'allais dire Black. Donc c'est une exposition historique de ce point de vue, magnifiquement réalisée et qui fait croire aux qualités extraordinaires des conservateurs français quand ils travaillent bien.
Ingrid Lukegan, pour finir ce premier tour de table rapide.
Bon, moi aussi, c'est une vraie leçon d'histoire de l'art et qui va changer de manière très concrète la manière dont on va écrire l'histoire. Et c'est en cela que c'est une expo révolutionnaire, puisque les questions d'idéologie passent au second plan.
Sous le ciel d'Afrique, chaque instant semble meilleur qu'ailleurs, et pour nous tout est désir, plaisir. Au pays en force, le son appel magique.
Une voix en moi s'élève et s'entraîne, elle dit
tu ne dois chercher la paix, loin du ciel de ton pays.
Sous le ciel d'Afrique, chaque instant semble meilleur qu'ailleurs, et pour nous sauver.
Envie d'entendre un peu Joséphine Baker qui forcément est présente dans cette exposition, notamment par une sorte de poupée statuée tout à fait invraisemblable, on l'évoquera peut-être. Mais pour commencer, continuer à poser vraiment les choses pour nos éditeurs, même s'il y a une journée spéciale sur France Culture vendredi dernier consacrée à cette exposition, on poursuit. Quelle est pour vous l'Anaël Pija? Alors, et selon aussi la communication, on va dire, faite par les commissaires de cette exposition, l'ambition de cette exposition, qu'est-ce qu'elle veut nous raconter, Anaël?
Comme je disais, effectivement, cette exposition a pour ambition de rendre des noms, de donner des,
de
révéler
nommer.
Les noms, de nommer ces modèles noirs qu'on voit dans la peinture pendant et dans la sculpture pendant près d'un siècle et demi.
L'exemple le plus fameux est au cœur de l'exposition, on va l'évoquer, c'est l'Olympia de Manet. Mais qui est cette servante noire? Comment s'appelle-t-elle? Quelle est son histoire?
Qui occupe la moitié du tableau et que l'essentiel de l'histoire de l'art a occulté jusqu'à présent. Alors, il y a une chose intéressante, c'est le titre de l'exposition, Le modèle noir. Je crois qu'il est vraiment à entendre au sens, en fait, les modèles noirs, c'est-à-dire d'une pluralité de ces modèles noirs qui, par rapport à l'exposition qui vient de New York, d'abord rassemble des hommes et des femmes, et pas seulement des femmes, et puis évidemment une très grande diversité de ces figures. L'ambition de l'exposition commence par la qualité des œuvres rassemblées, et comme commençait à l'évoquer Ingrid, effectivement, je crois que c'est le premier succès de cette exposition qui, en restant très près des œuvres et très près de l'histoire de l'art, permet d'abord de rester le plus éloquent possible sur ce sujet extrêmement complexe. Ensuite, il y a un certain nombre de perspectives qui sont croisées à ces enjeux formels et esthétiques, des perspectives et des recherches qui ont été menées très précises, sociologiques, politiques, aussi qui concernent d'autres arts, notamment les arts de la scène quand on se rapproche de l'époque contemporaine. Finalement, ce groupe de modèles que l'on regarde sont montrés dans l'exposition au sens de ces figures justement que l'on regarde, non pas d'un groupe social, mais d'un groupe qui sont porteurs de valeurs.
Fabrice Bousteau, l'exposition propose alors un accrochage, on l'a peut-être déjà compris, chronologique, mais évidemment il y a des périodes qui sont plus fortes que d'autres. Le point de départ, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce moment de l'abolition dont on sait alors qu'elle est faite par la Révolution française, remise en question évidemment par Napoléon, revenue ensuite dans la loi, puis il y a une nouvelle peinture, il y a les débuts de l'avant-garde du XXe siècle, il y a cette touche contemporaine qui souvent pose problème dans les expos historiques. On verra, hein, le temps d'arriver quand même jusqu'au bout de ce long parcours. Votre regard général sur l'accrochage, avant de revenir quand même plus en détail?
Pour moi, absolument brillant. Bon, il y a des œuvres, comme le disait Anaël, qui sont extraordinaires. C'est une exposition qu'on pourrait aussi appeler exposition document. Mmh. C'est une exposition d'art, c'est une exposition sociale et d'histoire de la France travers 150 ans. Elle s'ouvre par une œuvre majeure qui est très symbolique, qui dit tout de cette exposition, qui est un portrait d'une négresse, c'était le titre en 1800 de ce tableau réalisé par Marie-Guillaumine Benoît. Marie-Guillaumine Benoît, évidemment les auditeurs ne la connaissent pas et moi je ne la connaissais pas non plus au départ. C'est une élève de David qui a comme particularité d'avoir un beau-frère et une belle-sœur qui avait une esclave qui est devenue après l'abolition une de leurs domestiques. Et en fait, le portrait qui ouvre l'exposition, c'est le portrait de cette domestique qui est qualifiée de simplement portrait d'une négresse et qui s'appelle Madeleine. Un portrait magnifique dans la grande tradition française, avec une petite part quand même de malaise, puisque cette femme a un sein nu. Et que là on retrouve quelques éléments racistes. Pourtant, Marie-Guillaume Benoît était une abolitionniste convaincue.
Une manière de signifier sa condition, peut-être on peut
exactement
le voir comme ça.
De signifier sa condition. Mais c'est entre deux.
Ouais.
L'exposition, je vais venir à l'antre, mais l'exposition se finit par une œuvre aussi très importante et très forte, qui est une œuvre qui date de 1970 de Larry River, et qui est une sculpture qui représente deux versions juxtaposées de l'Olympia de Manet. L'une où la prostituée, donc dans l'œuvre originale de Manet, cette femme blanche alanguie et avec une servante noire, et l'autre où c'est inversé, où la femme blanche devient la femme noire, c'est-à-dire que la prostituée devient la femme noire et la servante devient la femme blanche. Ça dit tout du propos de l'exposition, parce que au milieu de cette exposition et de toutes ses œuvres, il y a un travail documentaire absolument exceptionnel, avec des archives qui concernent la caricature dont fait l'objet par exemple Alexandre Dumas, des photographies, des extraits de naissance, pour retrouver la trace et le nom de ces modèles qui ont été oubliés. Ce qui est très important à dire, c'est que ce n'est surtout pas une exposition sur la représentation des Noirs dans l'histoire de l'art. Mmh. C'est une exposition qui tient ce fil très tenu des modèles modèles noirs dans l'histoire de l'art de 1800 à 1870 autour de cette question du modèle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah mais pourquoi on ne montre pas Mapplethorpe dans cette exposition puisqu'on va jusque des artistes des années 70 ou 80 ?» Parce que ce n'est pas le sujet.
Le sujet, c'est le modèle noir. Effectivement, sujet tenu aussi, j'ai cité les commissaires de l'exposition. Il faut que je cite quand même les membres du comité scientifique, David Binman, Anne Igonet, Anne Lafont et Papendiaï, parce qu'ils ne sont pas pour rien, évidemment, dans cette tenue que nous avons, semble-t-il, tous remarqué ici. Ingrid Lukegan, on a parlé du propos, on a commencé d'évoquer cet accrochage avec Fabrice Bousteau. Est-ce que vous pensez que l'exposition ressemble à son projet ?
Bah alors, elle ressemble au projet des commissaires, hein, puisqu'on on a effectivement une exposition qui se concentre sur deux artistes principaux. Donc on a parlé de l'Olympia de Manet et de la servante qui s'appelle donc Laure. Dans la seconde partie, plus contemporaine, on a également Matisse. Et là, on a aussi un travail qui va révéler un pan méconnu de l'histoire de l'art, c'est-à-dire le voyage que Matisse va effectuer en 1930, d'abord à Tahiti, puis ensuite à New York. Matisse, on le sait, est fan de jazz. Matisse, on le sait moins, va également se rendre à Harlem, où il va découvrir tout un pan d'artistes et de photographes qui faisaient partie du mouvement Harlem Renaissance. Donc on a dans l'exposition un grand nombre de portraits de Matisse de cette époque, un plus petit nombre de photographies de l'école de Harlem.
Ce qu'il faut dire sur ces Matisse, c'est qu'on ne les connaît pas, ils sont plutôt moches. C'est des Matisse assez moches, et je trouve qu'il y a une connotation aussi, c'est ce que je vois, une forme de connotation presque un peu... pas raciste, mais
moi je dirais le contraire en fait, parce que Matisse, on sent qu'il cherche une espèce de stéréotype de la femme éternelle, et du coup bon, les portraits qu'il peint sont des portraits assez abstraits où au final il est pas vraiment fidèle non plus à la démarche du Harlem Renaissance où il faut vraiment peindre la vie sociale des gens de l'époque, hein. On est plus proche d'une catégorie sociale plutôt que d'un type en fait d'individualité. Et Matisse est à la recherche quand même d'un modèle féminin comme ça, éternel, romantique.
Pas d'accord là-dessus, Fabrice Bousteau.
Et bon, et après, quand il rentre en France, il se remet à peindre des femmes qui sont antillaises, mais qui sont quand même assez abstraites, quoi. Donc, par rapport aux propos de l'exposition, on n'est pas non plus dans un
type de catégorie sociale. Je trouve qu'il y a une figure, du cliché de la femme noire des années 30. À New York, c'est-à-dire que il y a un peu plus de couleurs, il y a un peu plus de, il y a une forme de cliché que je trouve très présente dans cette peinture de Matisse, et un trait très énergique, un peu raturé, alors qui vient sans doute du goût de Matisse pour le jazz, parce que c'est aussi les raisons pour lesquelles il va à New York à ce moment-là, mais qui n'a pas l'élégance de ses portraits précédents.
Plus d'énergie que d'élégance, voilà. Peut-être.
Moi, je trouve ça justement très élégant, quoi, comme une espèce d'arabesque.
C'est l'élégance de l'énergie, pour
voilà,
vous.
Voilà, mais qui ne disent pas grand-chose. Mais on découvre aussi des très belles photos de James Van Der Zee, que je ne connaissais pas, et donc il y a un photographe de Harlem... qui photographie la vie sociale dans la rue, les juifs noirs, plein de choses merveilleuses.
Ce que j'allais dire simplement sur Matisse, c'est une chose assez amusante, c'est qu'il est mentionné dans l'exposition le fait que Matisse a regardé des tableaux de William Henry Johnson, qui est donc un des peintres de la Harlem Renaissance, mais que l'écho qui est fait dans certaines œuvres de Matisse à un tableau de cet artiste qui est dans l'exposition, c'est la position des mains du modèle qui est nouée dans le collier qu'elle a autour du cou et pas du tout dans ni son visage, ni sa tenue, ni sa posture. Voilà.
Alors peut-être revenir un petit peu en arrière, parce qu'on est passé directement
par rapport au projet,
Harlem,
quelques mots.
Ouais,
c'est vrai que ça ressemble au projet des commissaires, mais du coup, là où je voulais un peu en venir, c'était que bon, il y aura peut-être plusieurs personnes qui seront déçues de ne pas y trouver peut-être des modèles d'identification noirs qui auraient été faits par des artistes noirs pour une communauté noire. Mais c'est là où on ne peut pas le reprocher à l'exposition, puisqu'effectivement, ce n'est pas du tout le projet.
Ce n'est pas le projet, c'est pas
faudrait, il faudrait sans doute faire une deuxième expo.
C'est déjà bien qu'il y ait une première. Fabrice Bousteau.
Je voudrais dire que c'est une exposition, il faut prendre du temps pour la voir, parce que c'est une exposition je reprends ce mot, une histoire cousue de fil noir de l'écrivain Amin Mokhtou, parce que c'est une exposition avec beaucoup d'éléments. Il y a eu un énorme travail d'archives et il faut passer le temps à regarder ces photos, ces caricatures, ces affiches, les affiches du... des os humains. Il y a vraiment un moment donné où on a vraiment, on est très mal à l'aise par rapport à nos ancêtres. C'est très clair. Et l'autre chose que je tiens à dire, c'est qu'il faut prendre du temps aussi parce qu'il y a des véritables chefs-d'œuvre. Il y a des surprises visuelles énormes. Il y a un Kees Van Dongen qui m'a absolument ébloui.
Très impressionnant, une sorte de géant, en plus bleu que noir,
exactement,
qui est très étrange, très saisissant, qui vraiment jaillit dans cette salle.
Il y a un Valoton aussi qui jaillit, pareil, qui est extraordinaire. À chaque exposition, je deviens de plus en plus amoureux de Valoton.
Il est fort, Valoton.
Il est très fort. Donc il y a une somme de chefs-d'œuvre quand même incroyable, et avec aussi des œuvres qu'on ne connaît pas du tout, d'artistes qu'on ne connaît pas, qu'on découvre. Moi, j'étais aussi fasciné, dernier point, sur les bustes de Cordier noirs, qui sont extraordinaires. Il y a quelque chose de très dérangeant, parce qu'on n'est pas habitué à avoir des bustes noirs.
Anna Elpija.
Pour revenir aux premières années de l'exposition, enfin en gros à la période qui va de 1788 à 1848, je reviens à cette idée qu'il faut effectivement regarder les œuvres et se plonger dans l'humanité de ces tableaux, parce que la recherche menée qui les accompagne est extrêmement édifiante, notamment tout le travail qui a été fait sur ces modèles et sur l'identification de ces modèles. Par exemple, la figure de Joseph, qui est le modèle...
modèle star, hein,
absolument, de cette qui est époque. Une star. Il y a des articles sur lui dans les journaux. Il est un employé de l'École des Beaux-Arts. Il est l'un des trois modèles hommes de l'École des Beaux-Arts. Tout le monde le connaît. Il est un mélomane averti. Il est donc le modèle de Géricault pour
le radeau
de la Méduse. Il est aussi un modèle pour Chassériau, et on le retrouve comme ça chez les uns et chez les autres. Il y a des documents qui accompagnent ces tableaux, notamment le très très beau portrait de lui qu'a fait Géricault, et qui passe par exemple par le registre de démargement de l'École des Beaux-Arts, dans lequel on voit sa signature, et qui est un document d'une extrême richesse, puisqu'on voit aussi les adresses des modèles dans Paris. Et puis il y a aussi un moulage de son visage qui est tout à fait bouleversant, et c'est le cas pour Joseph, mais c'est le cas aussi pour par exemple d'autres modèles comme Maria Lantillès, qui se confond peut-être avec Maria Martinez, un peu plus tard pour Jeanne Duval, pour Carmen Lahens, qui pose pour Matisse pour Les Fleurs du Mal. Et comme ça, l'exposition est ponctuée par des séries de portraits qui la rendent extrêmement humaine et qui donnent toute la profondeur à ses œuvres picturales.
Mais encore une fois, on en revient au modèle, à l'incarnation.
Un point important qu'il faut absolument dire, c'est que cette exposition, elle va changer définitivement la vie d'un certain nombre d'œuvres, puisque ce qu'entreprend le musée d'Orsay avec cette exposition, c'est de renommer les œuvres. Quand on avait une œuvre anonyme et ou une œuvre qui était portrait d'une mulâtre, eh bien le titre de l'œuvre est changé avec une notice qui précise quel était le titre d'origine. Et ça, c'est donc on revisite l'histoire et on corrige ses défauts. Je trouve que c'est absolument remarquable et c'est une première.
Ouais. Ingrid Le Guégan.
Non, moi je voulais juste apporter une petite anecdote un peu sur ces questions d'idéologie qui peuvent aider à faire comprendre en quoi on est dans un parti pris différent. Puisque le fameux tableau de Marie Guimine Benoît, en réalité, on le découvrait quand sortait le clip de Beyoncé et Jay-Z de Carter, tourné au Louvre. Puisque dans cette déambulation comme ça, avec plein de chefs-d'œuvre de la peinture classique européenne, on avait glissé comme ça en incise ce portrait inconnu. Et évidemment, il y a eu beaucoup d'historiens de l'art qui sont allés chercher, qui ont été faire un peu l'histoire de ce portrait. Donc on a vraiment deux manières de l'utiliser. D'un côté, dans une revendication extrêmement américaine postcoloniale, et de l'autre côté, dans une exposition qui relève beaucoup plus d'une idéologie française où on ne comptabilise pas les ethnies, et on est beaucoup plus dans un modèle comme ça universaliste.
Allez, dernier mot de Daniel
Pija. Simplement pour dire que cette exposition est évidemment pionnière, mais qu'elle ne sort pas de nulle part non plus, qu'il y a eu un certain nombre d'expositions avant elle, notamment Colorline à Branly,
exposition
dont on a parlé dans cette émission.
Ah, pour le coup, des artistes noirs.
Exactement, et que donc il y a quand même une recherche qui est enclenchée, notamment commencée aux États-Unis sur ce sujet.
Mais on l'attendait avec un volet à l'Orangerie qui était déjà organisé.
Tout à fait.
par Laurence voilà, Descartes.
Parce qu'on attendait, peut-être moins au musée d'Orsay qu'au musée du Quai Branly.
Et qu'elle a le mérite aussi d'être extrêmement large puisqu'elle touche aussi à la littérature, aux arts de la scène, au cirque, au cinéma, etc.
Oui. Donc, il faut rendre grâce à Laurence Descartes, directrice du musée d'Orsay, qui avait pris cet engagement de monter cette exposition. Si elle venait à diriger cette institution, c'est fait. Ce qui est bien, c'est qu'on a jusqu'au 14 juillet, pas mal comme date, pour aller voir et revoir le modèle noir de Géricault à Matisse, parce que c'est vrai que l'exposition est d'une extrême richesse. Et puis, si on peut se le procurer, se le faire offrir, le catalogue est absolument passionnant. Moi, je suis loin d'en être au bout. Coédité par Orsay Flamand. Il est très beau. Et puis, c'est vrai qu'il est singulièrement léger parce que c'est une question de, choix de couverture et de choix de papier.
Et on a deux livres aussi qui ont été édités en même temps. Un livre d'Anne Lafont, qui est un livre d'histoire de l'art, et un livre aussi de littérature de Marie Ndiaye.
Absolument.
Où elle revient très justement sur toute l'histoire. Voilà, ça s'appelle Un pas de chat sauvage. Elle revient sur l'histoire de Maria qui a posé pour Nadar.
Voilà, vous me devancez, c'est formidable, c'est la collégialité de cette émission. À suivre dans la dispute, Thomas Schütte, tout en Camon et Anne et Patrick Poirier.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Suite de cette dispute consacrée aux arts plastiques, comme chaque mercredi soir, pour parler à présent de l'exposition Thomas Schütte à la Monnaie de Paris, une exposition intitulée « Trois actes ». Il est né en 1962 dans la République fédérale allemande. Thomas Schütte, il a été l'élève notamment de Gerhard Richter. J'ai dit quoi ?
J'ai dit 62, c'est 1954.
Ben voilà, écoutez, alors là, c'est vraiment plus une faute de frappe, hein, c'est carrément une sorte d'hallucination. Bon, ben merci Fabrice Bousteau, 54. Est-ce qu'il a bien été l'élève de Gerhard Richter à Düsseldorf ? Vous confirmez ? Non, je vais vous le demander, pour pas dire d'autres bêtises. Non, on peut dire effectivement qu'il a développé une pratique qui prend des formes extrêmement différentes, ce qu'on va pouvoir aussi constater pour partir à la Monnaie, des maquettes, des gravures, des sculptures, bien sûr, mais aussi des lithographies, de la céramique émaillée, bien d'autres choses. C'est la première rétrospective parisienne de l'artiste allemand à la Monnaie de Paris. Donc, il a eu le Lion d'Or, lui, à la Biennale de Venise en 2005. On pourra voir qu'il a été marqué aussi bien par l'art minimal que par la sculpture classique. Il ne donne jamais d'interview, presque. Il préfère laisser parler ses œuvres. On va essayer, nous, quand même, de poser quelques mots pour Ivar Plucker et pour commencer vraiment quelques mots à peine pour résumer vos impressions, Fabrice Bousteau, sur Thomas Schütte.
Hors échelle, outsider, dérangeant, plaisant et superbe.
Bah, Ingrid Lukagan.
C'est un grand sculpteur, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu à Paris et je pense que c'est une expo qui veut surtout être représentative en montrant toutes les séries de son travail. Il n'y a pas que des bonnes séries mais c'est très bien, ça permet de se faire sa propre impression.
Annelle Pijat.
Et je trouve que cette exposition est un grand théâtre qui montre vraiment toute la profondeur du travail de Thomas Schütte sur la figure humaine, que la présence des œuvres dans ces lieux questionne son rapport au classicisme d'une façon très singulière.
Alors, Thomas Schütte, c'est peut-être pas un nom qui parle à beaucoup de nos auditrices et auditeurs, donc on va quand même essayer de le situer un petit peu. Fabrice Bousteau, expliquer quelle place il occupe dans le paysage de l'art contemporain.
C'est indéniablement un des artistes les plus importants au monde.
Carrément.
Vivant, carrément, présent dans toutes les plus grandes collections privées et dans tous les grands musées au monde. Il est par exemple, il a des ensembles colossaux dans la collection Pinault. C'est aussi un artiste qui a une relation très très étroite avec la France, puisque sa première galerie est la galerie Nelson, est française, et après il développe des relations avec au moins trois galeries françaises. Il a acheté très tôt par le Centre Pompidou, il est exposé très tôt par le Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, donc c'est un artiste qui a une relation étroite avec la France. Pourquoi cet artiste est important? Parce que d'ailleurs, il le dit souvent lui-même, que sans doute parce qu'il est un outsider. Et d'ailleurs, quand on, vous savez, quand on parle de folk art, c'est-à-dire ou d'art outsider, bah, il est vraiment dans cet ordre. C'est un artiste qui s'est intéressé et qui s'est fait connaître pour s'intéresser à des choses auxquelles les autres ne s'intéressaient pas. Je vais prendre une caractéristique. De son travail, une image sans doute que les auditeurs ont déjà vue, des images de sorte de personnages complètement déformés en couleur, c'est-à-dire l'affiche qu'on voit dans le métro, chose de mi-effrayant, mi-grotesque, mi qui pourrait faire rire. En fait, qu'est-ce que c'est ce travail? C'est au départ une sorte de petite poupée comme ça qu'il fabrique avec une pâte à modeler spéciale, une petite poupée qui fait à peu près une quinzaine de centimètres, avec un visage, des visages d'hommes un peu glauques, avec des gueules, mais vraiment des gueules un peu grotesques, vraiment moyenâgeuses, grotesques d'une certaine manière, et qu'il habille d'ailleurs avec ses vêtements. Il en faisait des petites poupées comme ça, et c'était complètement en dehors de tout ce qui se faisait à l'époque, mis sous cloche de verre. Et comme en fait ça marche pas trop, il commence à prendre des photographies de ces petites poupées, il en fait des grands formats, donc avec des images un peu de fantômes, étonnante, et puis de cela après, ils vont faire des sculptures monumentales. C'est un artiste protéiforme qui utilise toutes les techniques possibles et imaginables, la céramique, l'architecture qui est une obsession, et c'est un artiste qui est obsédé par ce rapport d'échelle, c'est-à-dire comment on passe du petit au très grand, comment on passe de l'architecture au théâtre. La question de la théâtralité et la narration est très importante dans son œuvre. Elle déroute par sa diversité, par ses sculptures. On est accueilli par des sculptures monumentales, très 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 étonnantes, on y reviendra, et en parallèle par des minuscules figurines.
Alors, vous parlez de théâtre, Fabrice Bousteau, l'expo s'intitule « Trois actes », il faut expliquer, Ingrid, Luc Egald, ce titre.
Alors, trois actes, c'est deux choses. C'est d'abord le titre d'une œuvre de Thomas Schüttel, une des rares qui est conservée au Centre Pompidou, et qui date de 1982. Donc 1982, à l'échelle de sa carrière, c'est très tôt, puisque l'une de ses premières œuvres en 81, ça sera de faire sa propre tombe. Il est étudiant, il a 27 ans et il termine ses années d'études en faisant une tombe où il inscrit son nom et sa date de mort potentielle, qui était donc le 25 mars 1996. Puisqu'il n'est pas mort en 82, il fera donc cette œuvre « Trois actes ». Il s'agit d'une œuvre qui est pas forcément représentative de son travail.
Mais est-ce qu'il y en a une? C'est une autre question.
Alors pour le coup, là, Thomas Schüttel, il est pas sculpteur. On le connaît par des aquarelles à la limite, mais là, c'est vraiment de la peinture. Il s'agit de trois grands panneaux peints assez grossièrement à l'acrylique et qui représentent donc trois motifs, chacun emblématique de la reconstruction de l'Allemagne. On a un panneau où on voit l'industrie à travers une chaîne de production de bouteilles en verre. Un second où le logo W de Volkswagen, qui signifie la voiture du peuple, montre un peu l'essor de la consommation. Et un troisième où on a des drapeaux sur ciel bleu qui représentent le progrès. Donc on comprend très vite que ce ne sont pas les tableaux en soi qui sont intéressants ou même l'objet de cette œuvre, mais que ça va être un jeu d'échelle, puisqu'il place de petites figurines et de petites architectures minuscules en bois en bas de ses tableaux. Donc on se rend compte qu'en réalité c'est un théâtre, tout comme l'ensemble de ses œuvres, leur rapport entre elles est également un théâtre. Et c'est pour cette raison que le parcours de l'exposition lui-même n'est pas organisé de manière chronologique, mais sera également scindé en trois parties, en trois actes, qui vont reprendre les grands thèmes de son travail, qui sont donc muse et héros, sur la figuration du corps, l'autre et l'au-delà, surtout le rapport à la mort, et une troisième partie qui s'appelle « Du modèle au monument », sur toutes ces architectures et ces maquettes.
Peut-être qu'on va entrer dans les lieux avec vous, Anaël Pigeat. Alors d'habitude, pour celles et ceux qui connaissent la Monnaie de Paris, on monte ces grands escaliers pour arriver dans une très grande salle. Enfin, tout ça. Et là, Thomas Chuteau, il renverse la proposition. On commence par la cour.
Absolument. Anaëlle. On commence par ces grandes œuvres monumentales qui sont très emblématiques de son travail, dont la plupart ont été produites pour l'exposition, c'est important de le dire, et qui sont comme
pas
il
la
le
plupart,
fait.
Il y en a trois.
Oui, il y en a trois sur six, je crois, ou sur
bon.
Cinq.
Allez,
sur huit. Bon, je ne sais pas bien compter.
Moitié.
Mais en tout cas, il y en a un certain
54,
nombre, et comme elles sont
compris,
très grandes.
Grand pour trois
en tout cas, il y a de la production, et c'est un fait à noter, surtout vu la taille des sculptures de Thomas Schütter.
Bon, en tout cas.
Et aussi, il ne nous laisserait rien passer, Fabrice Bousteau.
Non. Mais la pâte à modeler dont vous parliez tout à l'heure n'est pas une pâte à modeler spéciale, justement. C'est une pâte à modeler tout à fait banale. Qu'il utilise
donc,
pour qu'il a prise à ses enfants pour faire des petits modèles qu'il agrandit ensuite, et c'est le cas par exemple d'une de ses sculptures monumentales.
Voilà, enchaîné
le dragon qui souffle de la vapeur d'eau et qui accueille le visiteur à l'entrée de l'exposition. Donc pour rentrer vraiment dans ces premières salles, on a un premier aperçu de toute la diversité de son travail, avec des grandes femmes en bronze monumentales elles aussi, qui sont des femmes couchées. Il faut savoir que la plupart des personnages qu'il avait fait jusqu'à présent étaient plutôt des figures masculines, et que là, il y a l'apparition dans les années relativement récentes de ces personnages-là. Et puis, il y a aussi, très rapidement dans le parcours de l'exposition, une série d'aquarelles et de dessins extrêmement intéressants, parce que ce sont des œuvres qui ont été peu montrées jusque-là et qui sont en fait le travail d'atelier de Thomas Schütte. Et ce qui est formidable dans cette exposition, qui en gros se compose d'un certain nombre d'ensembles, pas vraiment avec un fil chronologique, mais un petit peu quand même, avec quelques allers-retours comme ça, quelques va-et-vient. Donc c'est une exposition qui donne extrêmement bien à voir le processus de travail de Thomas Schütte. Et il y a à l'étage, en bas on voit les dessins, il y a un certain nombre de figures en céramique aussi très très belles, et puis des figures en verre qui montrent à quel point il utilise une grande diversité de matériaux. Et quand on monte à l'étage au-dessus, il y a une salle qui montre des petites maquettes qui viennent de son atelier, dont la plupart sont inédites, et qui sont la source d'un très grand nombre d'œuvres qu'on retrouve par ailleurs dans l'exposition. Par exemple, la boîte d'allumettes sur laquelle est posée une chips, qui lui a inspiré la forme de sa fondation, la Skulpturhalle, qu'il a construite en Allemagne pour inviter d'autres artistes et pour montrer de la sculpture, la sienne et celle des autres.
Alors, on aura compris que si on ne connaît pas Thomas Schütte et qu'on se rend à la Monnaie de Paris, on va avoir quand même une vraie belle rétrospective très bien accrochée, enfin avec un sens de l'espace et de la narration grande. Mais je reviens à ma question initiale, presque déjà en conclusion de cette partie de notre émission. Mais Thomas Schütte, alors vous dites Fabrice Bousteau, artiste absolument majeur de notre temps, il faut quand même continuer à dire artiste quand même très 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 méconnu, en tout cas sous nos latitudes. Comment comprendre ça? Est-ce que c'est cette diversité? Il n'y a pas d'image totem, on pourrait dire. Il n'y a pas de reconnaissance facile de Thomas Schütte. Alors, est-ce que ce ne serait pas, ma question sera celle-là, est-ce que ce n'est pas un artiste pour les artistes? Ingrid, c'est la première qui a réagi. Ingrid Le Kegan.
Alors, il essaye, en fait, ce qui est frappant, c'est qu'il essaye de s'inscrire dans une espèce de représentation existentielle de l'humain. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout l'humain en société, l'humain déterminé par telle technique, tel média. On a vraiment quelque chose d'existentialisme, d'une espèce d'humain primordial, de la vie nue, comme ça, un grand souffle un peu wagnérien. Et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une confrontation qui est peut-être assez dure. Il y a toujours comme ça cette idée de solitude. Les architectures, au final, c'est souvent des maisons pour une seule personne.
Donc ça n'entraîne pas une popularité immense, ce type de recherche.
Voilà, c'est vrai que la première approche, c'est quelque chose d'assez emphatique, même si on le découvre très drôle, mais à travers effectivement des aquarelles et des toutes petites œuvres qu'on connaissait pas encore. Mais moi, ce serait justement la raison pour laquelle je pense que c'est une œuvre dans laquelle on peut rentrer sans avoir de référence. Auparavant, et je pense qu'on l'a peut-être un peu trop vendu comme un artiste inspiré par le minimalisme, par tel ou tel type de sculpture, alors qu'on le retrouve pas forcément, quoi. Enfin,
Annaëlle Pigeat.
On a parlé de la théâtralité de son travail, mais c'est un artiste chez qui tout est extraordinairement ouvert. Tout est possible à tout moment. Et en fait, l'exposition est comme une grande scène en répétition permanente. C'est-à-dire qu'on a l'impression, dans sa manière de jouer avec les perspectives du bâtiment, à travers les ouvertures, à travers les... On a l'impression que il y a en particulier dans les salles de la Monnaie un endroit assez singulier où il y a une ouverture au-dessus d'une cheminée. Et il utilise toutes ces différentes perspectives pour créer des nouveaux regards sur ses œuvres qui font que peut-être son travail, en effet, est compliqué à saisir parce que tout est possible en permanence.
Bon, c'est une belle réponse aussi. Fabrice Bousteau, pour conclure.
Moi, je pense que c'est un artiste space, un artiste bizarre, c'est un artiste unique, un univers unique, une mythologie individuelle, comme disait Harald Zeman. Ça, c'est le premier point qui explique qu'il a une totale liberté, qu'il fait des choses que les autres ne font pas. D'autre part, son univers, il est... quand on regarde ses œuvres et qu'on commence à les comprendre, on rentre dans un film. C'est l'histoire de la théâtralité. Je vais vous parler d'une salle, par exemple. Dans une salle, il y a des urnes très belles, très colorées, magnifiques, qu'il appelle de manière très dérangeante The Family. La famille. Il explique que c'est les urnes d'un père, d'une mère et des enfants. Et en face, il y a quelques petites sculptures très jolies, très colorées, qui ressemblent à des sculptures de design de Mandini, le designer italien. Et puis quelques aquarelles sur le mur. Et quand on regarde les aquarelles, les mots pour Schouteux sont très importants. On voit soudainement une aquarelle avec une fleur très belle, joyeuse, où c'est indiqué décoration. Le barré égale mort. Et donc en fait, du coup, on relie ces trois pièces et Camille Moreno, la directrice de la Monnaie de Paris et le commissaire d'exposition me disait, au début, moi je voulais pas du tout mettre ça, je comprenais pas ce qu'il voulait faire. Et elle me dit, mais effectivement, il écrit son propre roman à travers ses œuvres, il les remélange elle-même pour tout le temps faire des pièces de théâtre. C'est ça la force. Bon, Schouteux.
Rendez-vous au théâtre pour découvrir ces trois actes de Thomas Schouteux. Les commissaires sont Camille Moreno et commissaire associé Mathilde Decroix. C'est à la Monnaie de Paris jusqu'au 16 juin. Un catalogue coédité par l'édition Schnuck et la Monnaie de Paris. C'est l'heure du coup de cœur, le coup de cœur d'Annaëlle Pigeat que je partage pour Rome à mort. C'est Anne et Patrick Poirier qui ont investi la Villa Médicis à Rome. Annaëlle.
Oui, un véritable coup de cœur, Arnaud, pour cette exposition d'Anne et Patrick Poirier, Rome à mort, à la Villa Médicis. Je me demandais si on fallait dire Rome à mort ou Rome à mort. Il y a une majuscule au milieu du mot.
C'est l'amour à mort.
En tout cas, c'est l'exposition d'une vie. Ces deux artistes travaillent ensemble depuis que leur histoire d'amour s'est cristallisée là, en 1967, à la Villa Médicis, alors qu'ils y étaient tous les deux pensionnaires. Quand ils parlent de leur sculpture, de leurs dessins, de leurs photographies, Anne et Patrick Poirier parlent toujours d'une seule voix. L'un se présente comme archéologue, l'autre comme architecte. En fait, c'est surtout pour eux une manière de ne pas se dire artiste. Donc ils reviennent à Rome cette année avec une exposition qui est moins une rétrospective qu'un nouvel élan dans leur travail, avec des accents d'une sérénité presque joyeuse. On retrouve évidemment les thèmes qui leur sont chers, l'archéologie, les ruines, la mémoire, le voyage et la mélancolie. Il y a des œuvres anciennes, par exemple l'une des premières qu'ils aient faites à la Villa Médicis à partir d'empreintes relevées en papier japonais sur les sculptures des Hermès du jardin de la Villa Médicis. Et ces œuvres, encore aujourd'hui, sont si vivantes qu'on dirait vraiment qu'elles datent d'hier. Et puis il y a aussi des créations nouvelles, comme le songe de Jacob, une installation qui occupe tout un escalier jonché de plumes immaculées d'anges déchus. C'est assez drôle. Il y a deux grandes échelles de néon qui ponctuent la montée des marches. Au mur, il y a des lettres lumineuses qui sont comme griffonnées et qui indiquent les noms de personnages mythologiques qui sont parfois devenus des planètes. Et finalement, entre des salles sombres qui sont plutôt des images d'un monde post-apocalyptique et d'autres qui sont éclatantes de blancheur, Rome à mort est aussi une vision saisissante du monde contemporain.
Comme c'est bien dit, non, je pas le temps d'en ajouter beaucoup plus, dire que l'exposition, on peut la voir jusqu'au 5 mai à la Villa Médicis, que c'est Chiara Parisi qui en est la commissaire. Il y a une très jolie publication aussi à l'occasion de cette exposition Rome à mort. Et puis dire qu'on pourra aussi voir les Poiriers, notamment à Lille, dans Eldorama, la nouvelle étape de Lille 3000. Ça commence le 27 avril, c'est bientôt. On en parlera ici. Et puis une exposition personnelle sera plus loin dans le temps, durant l'été 2020, à l'abbaye du Thoronet. Et puis, on pourra aussi réécouter leur masterclass de France Culture, animée par une certaine Anaëlle Pigeat. On rediffusera cette masterclass des Poiriers le samedi 29 juin à 20h sur notre antenne.
France Culture, la dispute, Arne Laporte.
Le dernier sujet à notre affiche ce soir, c'est Toutankhamon, le trésor du pharaon, jusqu'au 15 septembre à la Grande Halle de la Villette. C'est une sorte de retour, hein, 52 ans après ce qu'on a appelé l'exposition du siècle en 1967, qui avait attiré 1 240 000 visiteurs. Dans la série d'Avoinu qui lui était consacrée en 2007, interrogée par Pascal Vernus, Christiane Desroches d'Ombléco revenait, c'est un court extrait, sur les difficultés qu'elle avait rencontrées à monter cette exposition.
صحيت الصبح من السهرة لقيت الليل سرق وشي صرخت غيتوني يا صحابي وهتولي من السهر وشي صرخت غيتوني يا صحابي وهتولي من
Il fallait être tenace, parce que pour faire sortir des trésors de l'Égypte, qui n'étaient jamais sortis des vitrines depuis la découverte, c'était pas facile. Comment est-ce que je m'y suis pris si je vous disais qu'il y a tellement eu de difficultés, d'interférences, de luttes, de véritables luttes entre les uns et les autres, que je ne me rappelle plus lequel je dois mettre en avant.
Alors, autre époque, hein. Aujourd'hui, les difficultés ne sont pas les mêmes. Peut-être que l'exposition n'est certainement pas la même. On est 100 ans après la découverte du tombeau de Toutankhamon. On peut donc revoir, pour les plus anciens à Paris, ces trésors, avant qu'ils ne rejoignent de façon définitive le nouveau grand musée égyptien qui est en train d'être construit au Caire. Paris, c'est, on pourrait dire que c'est une des étapes du Toutankhamon World Tour. Quelques mots, alors vraiment quelques mots, pour donner votre sentiment, Ingrid Lukegan, tout d'abord.
Eh ben, c'est un son et lumière, où à force de vouloir mettre en lumière les objets, on finit par plus les voir.
Anaëlle Pigeat.
Fulgurante qualité des objets exposés, du niveau pédagogique de l'exposition, expérience de visite rendue impossible par la foule.
Fabrice Bousteau.
Si vous allez à Toutankhamon, vous vivrez l'expérience d'être dans un sarcophage.
Alors, on va développer Ingrid, je peux vous appeler Christiane, en tant qu'égyptologue vous-même, hein, Ingrid Lukegat, c'est bien connu. Comment est-ce qu'on est accueilli dans cette exposition? Comment on entre dans le sarcophage? Qu'est-ce qui se passe à l'entrée?
Mais alors moi, je viens de repenser à une œuvre de Thomas Schütte, bizarrement, parce qu'il fait une œuvre qui s'appelle Amusement, donc un mot-valise composé de musée et d'amusement. On voit une structure avec des spots comme ça qui éclairent un peu tout, comme une espèce de discothèque. Et Toutankhamon, c'est un peu ça. On a l'impression d'être dans une discothèque. On est accueilli dans un sas de lumière bleue.
Bon, il n'y a pas de physio à l'entrée. A priori, si on a un ticket, on rentre. Hein. C'est
avec une musique de lutte quand même très très forte. On est accueilli dans un sas où donc on est bloqué. On doit attendre qu'une vidéo explicative se mette en route. On nous explique de manière très didactique et avec force superlatif un peu comment s'est faite la découverte du tombeau.
Je te coupe, Ingrid, mais on se voit,
monsieur.
On est accueilli par 191 Ça, c'est le numéro de l'audio guide que tout le monde met aussi.
Ah oui, alors moi, j'ai pas.
On prévient 191. Et après, messieurs, dames, vous allez attendre 6 minutes parce qu'il y a 6 minutes le film.
Ah oui, c'est avancé, reculé. Voilà. Et donc, on nous dit, c'est la fouille de la dernière chance, mais c'est le pharaon le plus dangereux, le plus puissant et le plus obscur. Après, le sas s'ouvre enfin. On est autorisé à pénétrer dans l'enceinte et là tout le monde se rue sur ces pauvres petits objets qui déjà sont dans des vitrines surmontées d'écrans vidéo, de cartels dans tous les sens, de citations, de numéros d'audio guide. On pense un peu au chapeau dans Flaubert hein, de Charles Bovary qui est comme ça décrit par une accumulation de couches de tissus au sens où le chapeau n'existerait plus. Donc en fait on a des objets effectivement absolument extraordinaires qui sortent pour la première et pour la dernière fois d'Égypte, puisqu'ils vont être ensuite conservés dans un nouveau musée au Caire. Mais c'est vrai que c'est très difficile de les voir. On est frappé par la qualité des objets, mais on est dans une espèce d'expérience immersive où on se sent quand même assez pris en otage et où il est impossible de vraiment regarder les objets puisqu'on doit absolument ressentir et être tout le temps dans le pathos et dans l'emphase. Et c'est une expérience assez désagréable d'être comme ça manipulé et pris en otage.
Alors, quelques déjà parties prises de cette exposition, hein, si je vous entends, sarcophage, prise d'otage, pathos, Annaëlle Pigeal, elle est conçue comment? Qu'est-ce que vous en avez compris de la façon dont cette exposition était conçue?
Mais ce qui est terrible, c'est qu'elle est très bien faite, cette exposition. Elle n'est pas visible, mais elle est remarquable. Il y a un détail amusant, c'est que les cartels sont en hauteur. Enfin, il y a des cartels à niveau de hanche sur le socle des objets, mais il y a aussi des cartels en hauteur et je lisais que en 67, en cours de route, des cartels avaient dû être d'urgence imposés, installés en hauteur parce que la foule était telle que, donc je ne sais pas comment c'était en 67, mais peut-être c'était exactement la même chose.
1 400 000 personnes en peu de temps. Hein.
Toujours est-il que l'exposition ici est remarquable, si on peut la voir, parce qu'elle a différents niveaux de lecture et elle est extrêmement claire. Donc on voit d'abord le destin de ce jeune roi qui est monté sur le trône à 9 ans, qui meurt à 19 ans, sous le règne duquel se développe un art d'une vivacité extraordinaire, l'art du Nouvel Empire. On voit ces objets absolument, absolument merveilleux, pour en citer quelques-uns, la statue de Toutankhamon debout, enfin la statuette de Toutankhamon debout sur une panthère noire, il est doré, la panthère a une sorte de muselière rouge ocre absolument merveilleuse, il y a des pectoraux absolument extraordinaires, il y a le gardien grandeur nature, un gardien du tombeau. Grandeur nature, qui est saisissant aussi de beauté. Donc il y a toute cette dimension-là. Il y a tout un aspect de l'exposition qui est passionnant et très amusant sur la découverte de 1922, sur la personnalité de Howard Carter, qui est donc l'archéologue qui a ouvert la tombe, dont on apprend que en fait il a d'abord été déclaré inapte à la fouille. Il faisait des dessins pour illustrer les fouilles, mais un de ses supérieurs a décidé que non, vraiment c'était pas possible. Et finalement, ce n'est que parce que un mécène, Lord Carnarvon a décidé qu'il allait employer Howard Carter et que finalement c'est la fouille de la dernière chance au cours de laquelle ils ont découvert la tombe, que tout ça devient possible. Et puis il y a une dernière dimension de l'exposition qui est non moins passionnante, c'est le contexte actuel de l'égyptologie, en fait, enfin, de la recherche en égyptologie en Égypte, qui est le cas de ce grand musée du Caire qui va ouvrir au bord des pyramides de Gizeh avec une vue sur la pyramide et donc avec l'idée de rapprocher les objets. Voilà. Alors évidemment, on se demande si c'est pas un peu triste de vider le musée du Caire, mais il semblerait qu'il soit tellement plein qu'en fait, ça ne fasse pas...
Compliqué aussi.
Oui, et puis surtout, il y a tellement d'objets qu'en fait, il semblerait que finalement, on se rende pas tellement compte à l'arrivée. En tout cas, c'est ce que j'ai cru en comprendre.
Il a surtout été pillé aussi. Hein. Là, on nous dit que c'est pour financer justement aussi...
C'est-à-dire que
la rénovation du
grand musée qui est fait avec des fonds japonais. Et ça témoigne, tout ça témoigne de l'extrême intensité de la vie des fouilles aujourd'hui. Il y a un bulletin qui est publié par le ministère des Antiquités qui raconte les choses qui sortent de terre tous les jours. Et donc, il semblerait que ce soit un domaine extrêmement vivant et actif.
Donc, il faut que cette exposition vende beaucoup de billets pour financer. Et c'est tant mieux, hein, si c'est pour ça, si ça arrive à la construction du nouveau musée du Caire, on sera ravis. On espère que tout l'argent y arrivera. Comment est-ce qu'elle se donne les moyens, selon vous, Fabrice Gousteau, cette exposition, de rassembler le plus grand nombre? Parce qu'on imagine bien qu'on attend le record.
Elle se donne le moyen par des principes scénographiques extrêmement bien connus, puisque quand on arrive dans cette exposition, on est plongé dans le noir, il y a de la musique en permanence, il y a un son et lumière permanent, une pédagogie fait pour enfants de moins de 3 ans. C'est là où je suis en désaccord avec Anaëlle, c'est-à-dire que les cartels sont d'une indigence incroyable.
Qui ont été écrits par l'équipe du Louvre.
Les cartels vous prennent par la main et permettent d'approfondir après. Mais pour un premier niveau de l'initiation, il fonctionne tout à fait bien.
Pour un premier niveau, il ne faut pas oublier quand même que cette exposition, au départ, il avait été envisagé qu'elle soit organisée au Grand Palais, que le Grand Palais a refusé absolument, puisque c'est une organisation américaine extrêmement totalitaire dans l'organisation de la scénographie. J'ai une image très claire, c'est que il faut que les auditeurs comprennent que c'est comme si je partais avec eux, j'invitais quelqu'un à aller dans une salle de cinéma, aller voir un film, que la salle est totalement pleine, que je suis obligé de voir le film qui dure 2 heures debout, et que je vois que 30% de l'écran. C'est ça cette exposition. Et elle se finit par... on finit en rentrant dans une boutique où c'est quand même le comble du comble. Le premier objet qu'on voit est une reproduction du masque funéraire vendu 28 000 €. On trouve également évidemment des...
Vous n'avez pas amené, je comprends pas.
Voilà, des tours Eiffel tout en camon. Je vois mal le lien entre la tour Eiffel et tout en camon. Et puis, des sacs de l'explorateur. Moi, je suis affligé par cette exposition et je conseille tous nos auditeurs de se précipiter avec plaisir et bonheur au Louvre, dans les salles d'antiquité égyptienne, où il y a plusieurs chefs-d'œuvre et où il y a très peu de monde. Et là, ils vont prendre du temps et apprendre beaucoup de choses.
Ouais, mais là, on pourrait se demander s'il ne faudrait pas que le Louvre rende certaines de ses œuvres. Mais là, on ne va pas refaire le débat.
Par rapport au Louvre, je me disais quand même, c'est vrai qu'on a une expérience extrêmement assez méprisante quand même. Il y a une espèce de démagogie qui est un peu étouffante, alors que justement Toutankhamon, c'est une histoire que tout le monde connaît par les films, enfin on peut pas l'ignorer, ça fait vraiment partie du patrimoine culturel mondial de l'humanité, et je me dis que s'il y a bien une exposition, c'est cette exposition-là qui pourrait parler d'elle-même et se passer de tout cet accompagnement spectaculaire, puisque les images, on les a déjà. Hein, on les a déjà par Hollywood, on les a déjà par toutes sortes d'accompagnements.
C'est l'expression oppressante qui rend débile. Il faut quand même le dire. Il y a quelque chose, quand on voit les gens agglutinés, en train de prendre des photos, les enfants en train de courir, la musique, le son et lumière, c'est une exposition qui tue la culture.
Non, mais je suis absolument d'accord avec ça. Moi, j'ai même pas pu approcher de l'endroit où ne se trouve pas la momie de Toutankhamon, puisque elle n'a pas fait le voyage ni le masque, mais où il y a en revanche les pectoraux, enfin des sceptres et puis un certain nombre d'objets comme ça qui sont sur un sarcophage. Je n'ai même pas pu m'approcher de cet endroit. Et la pollution sonore qui est créée par la musique d'ascenseur plus les films est quelque chose qui vous débranche le cerveau. Je suis absolument d'accord avec ça, et qui est plus proche de l'expérience de bricomarché que de l'expérience d'une visite d'exposition.
Le problème, c'est que les gens qui ont organisé l'exposition n'ont pas confiance ou connaissance suffisante des pièces montrées pour
Mais je ne sais pas si c'est ça, ou si la question qui se pose est de savoir comment gérer les foules dans un dispositif comme celui-là. J'ai regardé si on peut réserver son ticket. C'est plein pour les 3 semaines à venir, pendant les week-ends, et le tarif est de 24 € pendant le samedi et le dimanche, plus cher que pendant la semaine.
C'est l'exposition extrêmement chère. Mais la question sur les flux de fréquentation, elle est très connue. Dans une salle de cinéma, quand il y a 150 places, il y a 150 places.
Et ça pose la question de la manière dont ces exposés sont gérés. N'agglutinons pas les gens pour de mauvaises raisons.
Mais de manière générale, sans parler de la fréquentation, quelqu'un parlait de totalitarisme. Et en fait, je pense que c'est un vrai problème que cette exposition arrive à Paris seulement quelques mois après DAO. On était déjà dans une expérience immersive, où c'était encore autre chose, mais il y avait quand même ce truc de soumission du spectateur, et on le berce par tous les sens possibles. Et je pense que c'est un vrai problème. Il ne faut pas que ça devienne non plus un modèle. Sinon, on peut aller voir les expositions en réalité virtuelle et c'est la même chose.
Mais justement, il y a quand même quelque chose fondamental ici, c'est que tout ce procédé a été l'occasion d'une campagne de restauration de ces objets pour leur future installation au Musée du Caire, et qu'en attendant tout le désordre qu'il y a autour et la pollution qu'il y a autour, les objets sont bien là et eux... sont quelque chose d'extraordinaire.
Bon, si vous arrivez à voir quelque chose...
Je pense qu'il faut acheter un ticket à Toutankhamon et se ruer au Louvre après.
Bon, allez au Louvre, 26 ou...
24, 26,
ça dépend même des jours. C'est jusqu'au 15 septembre.
Et pour les enfants, c'est 20 euros.
En tout cas, la grande halle de la Villette, il y a un catalogue qui est édité. Mais je vais vous conseiller plutôt de vous procurer, avec le même auteur hein, d'ailleurs, c'est Zahi Hawass, qui est un des plus grands égyptologues aujourd'hui, plutôt que d'acheter le catalogue de l'exposition, d'acheter celui de Citadel et Masno, le trésor de Toutankhamon, qui est absolument merveilleux, avec des pages dépliantes. Il y a les photos formidables de Sandro Vanini pour cette édition. Et donc voilà, c'est une façon peut-être de regarder autrement. Il y a quand même 5400 pièces qui ont été découvertes. Alors, certes, elles ne sont pas toutes répertoriées dans ce livre, elles ne sont pas toutes présentes, évidemment, dans l'exposition, mais voilà, vous pouvez nourrir autrement votre approche de Toutankhamon. Et Joséphine Dumoulin nous a rejoint pour le jeu de la dispute et d'abord le rappel de la question d'hier et sa réponse, Joséphine.
La question était: quel portrait célébrant l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises fait référence à la Fornarina de Raphaël? Et la réponse était: portrait d'une négresse.
Ce soir, des invitations pour le film Still Recording de Saad Al-Battal et de Ghia Ayoub, qui est sorti aujourd'hui au cinéma. La question, Joséphine?
Quel film, présenté à Cannes en 2014, documente la guerre syrienne à partir de vidéos trouvées sur Internet?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Joséphine Dumoulin. Prise de son ce soir, Clément Daté. Réalisation, Alexandre Fougeron. Demain, une dispute littérature en compagnie de Lucille Como, Laurent Nunez et Jean-Christophe Brianchon. Nous retrouverons à 19h pour parler de Terminus Berlin d'Edgar Ilsenrath, de Vivre dans le désordre d'Ismaël Joud, Les chemins du désir de Claire Richard et puis il y aura aussi un petit salon de Lucille Como sur le thème Les lectures qui se partagent.